La radio de Pignon, c'est RMC.
Bien, Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Après Boris Johnson, qui a renoncé à briguer le poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, c'est au tour de Nigel Farage, le leader ultranationaliste, de démissionner de la tête de son propre parti, le UKIP. Pourquoi ces défections alors qu'ils ont gagné le référendum? Votre parti pris avec la victoire du Brexit, ce sont ses partisans qui ont tout perdu.
Ben oui, c'est vrai que c'est une victoire qui a l'air de ressembler diablement à une défaite. Boris Johnson avait un boulevard pour succéder à Cameron, il s'est défilé. Nigel Farage passait pour un héros de la cause britannique, il file comme un lapin. Tout ça a un air de après moi le déluge, puisque avec ce vote, on le voit bien, la Grande-Bretagne se retrouve à la fois au banc de l'Europe et au bord de la crise économique, et même au bord de la crise de nerfs d'une certaine façon. Du coup, tous ceux qui ont cru au boniment des promoteurs du Brexit en sont pour leurs frais au sens propre, parce que la livre s'est effondrée, ce qui fait mécaniquement augmenter les prix. Donc ils ont perdu à la fois leur leader et leurs meilleurs arguments. Ça veut dire que ceux qui ont fêté la victoire du Brexit, en réalité, ont célébré leur propre défaite, sans compter le risque de sécession de l'Écosse. Donc ce n'est plus vraiment un royaume uni, mais c'est un royaume puni.
Dans tous les pays, on entend la demande de référendum du même type que celui qui s'est tenu en Grande-Bretagne. Est-ce que les premières conséquences du Brexit peuvent avoir un effet dissuasif?
À court terme, ça n'est pas le plus probable, parce qu'on le sait bien, il n'y a pas de meilleur argument que de prétendre qu'on va donner la parole au peuple. Ça s'entend aussi en France, et vous allez peut-être l'entendre dans quelques minutes.
S'il est là, c'est aussi pour nous parler de l'émission de son ami et allié, Nigel Farage.
Oui, c'est un peu le Farage français, en quelque sorte,
Nicolas Dupont-Aignan.
Bon, sauf qu'en pratique, le Brexit montre bien que ceux qui veulent toujours faire parler le peuple sont parfois les premiers à tromper le peuple. Les leaders qui promettaient en Grande-Bretagne l'arrêt de l'immigration et le renflouement du système de santé avec les fonds que la Grande-Bretagne arrêterait de verser à l'Union européenne, ces leaders-là n'ont pas mis 24 heures pour avouer que tout ça c'était des mensonges. Donc dans l'histoire de la construction européenne, on savait qu'il y avait eu une très grande duperie en 2005 quand on a contourné le nom français et le nom néerlandais en faisant le traité de Lisbonne. On retiendra aussi qu'en 2016, il y a eu une énorme arnaque avec le Brexit.
Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, dit que l'Europe peut s'en sortir à condition que les États membres conduisent des politiques de relance de la croissance. C'est un scénario plausible.
Mais vous savez, Christine Lagarde dit aussi dans la même interview au journal Le Monde que le Brexit ouvre une période d'incertitude. Alors jusqu'ici, on n'avait pas vu beaucoup de certitude. Pour le reste, il faut bien dire que c'est aussi un revirement de la part du FMI, puisque le FMI a longtemps pesé en faveur de politiques d'austérité, et maintenant le FMI réclame plus de mesures de relance. Ce qui monte, en réalité, c'est surtout l'idée que l'Europe pourrait se ressouder en abolissant les statuts particuliers. Vous savez, ce qu'on appelle l'Europe à la carte, où notamment les Anglais, mais aussi d'autres pays, avaient négocié des exceptions sur pratiquement tout. Vous savez, les Anglais, ils avaient une contribution moins importante que les autres, ils n'avaient pas l'euro, ils étaient en dehors de Schengen, ils avaient des exceptions sur le fonctionnement de la justice. Bon, si le vote anti-européen des Britanniques aide à la fin à améliorer le fonctionnement de l'Europe, il faut reconnaître que ce serait un sacré pied de nez, et en tout cas pour les partisans du Brexit, ce serait une défaite supplémentaire.